Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. On va évoquer la nouvelle croisade de Bruno Le Maire. Il est clairement déterminé à réduire les dépenses publiques à partir de 2024. Le ministre de l'économie martèle qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Alors peut-on y croire ? Et on posera aussi la question de savoir si le chaos autour de la réforme des retraites peut éventuellement se répercuter sur les taux de l'OAT, l'obligation émise par le Trésor. Emmanuel Macron avait parlé, vous le savez, d'un risque financier. Voilà, donc maintenant la question c'est comment on baisse les déficits, comment on désendette un pays et qu'on finance toutes les nouvelles priorités sans augmenter les impôts. Pas mal d'économistes commencent à penser et d'ailleurs à dire clairement que ça leur paraît totalement impossible d'imaginer qu'on évitera la case fiscalité. C'est un travail de compilation impressionnant, 8 ans de travaux, 10 000 pages de rapports. Le GIEC a publié hier donc des travaux actualisés. Le pire est évitable. Ce qui est étonnant dans ce rapport du GIEC, c'est que les fois précédentes, il y avait le côté « on va tous mourir ». Et là, le message global, c'est « on peut encore tous survivre ». Ce qui est quand même pas la même façon d'aborder le sujet, même si les constats sont éternellement les mêmes. Nous n'allons pas assez vite, nous n'en faisons pas assez. Il faut agir dans tous les domaines et investir très massivement si on veut respecter les engagements qui ont été inscrits dans les COP, notamment celle de Paris. La crise bancaire est-elle terminée ? Alors c'est facile de poser la question après une semaine de turbulences. Hier, en tout cas, la journée s'est plutôt bien passée. Maintenant, il y a quand même des questions de fond qui sont posées, savoir si l'accès au crédit va être restreint parce que nous venons de traverser, si les fameuses règles prudentielles, les assurances tout risque, normalement mises en place en 2008, sont vraiment efficaces et comment les banques centrales peuvent arbitrer entre je vais assurer la stabilité des prix, mais je vais assurer la stabilité du système financier. Les deux missions ont tendance à s'entrechoquer un peu. Bonjour Agnès Michel.
Bonjour.
Bienvenue, membre du comité éditorial de Terra Nova. Vous avez publié le petit manuel à l'usage de ceux qui paient des impôts et voudraient bien savoir pourquoi. Chez Rue de l'Échiquier, il y a peut-être ceux qui vont en payer plus aussi et qui se demandent pourquoi. Agnès Verdier-Molinier, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, directrice de la Fondation IFRAP, et vous avez publié Le vrai état de la France, les citoyens ont le droit de savoir, aux éditions de l'Observatoire. On va en parler tout de suite avec l'ambition de Bruno Le Maire en matière des dépenses publiques. Jérôme Dédéon, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Associé de tous en mesfinances.com, président de Mon Partenaire Patrimoine, c'est du conseil en gestion de patrimoine pour tous. Réduire les dépenses publiques dès 2024. C'est ce que martèle Bruno Le Maire depuis des jours. Ne jamais, jamais, au grand jamais, augmenter les impôts. En tout cas, tant que je serai là, dit le ministre de l'économie. Agnès Verdier, est-ce que vous avez envie, cette fois-ci, d'y croire ? C'est le combat de votre vie. Est-ce que vous vous dites, c'est le ministre des Finances qui a le mieux résisté dans la durée en Europe aujourd'hui. Il en est à plus de 6 ans. Est-ce qu'on se dit, ça y est, cette fois-ci, on va y arriver. Il semblerait qu'il veuille ramener les dépenses publiques à 54% du PIB dès l'année prochaine.
Bien sûr qu'on a envie d'y croire et on a raison d'y croire. Pourquoi ? Parce que on va pas rester scotché à 57 ou 58% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale, alors que les autres pays sont bien en dessous. Donc évidemment qu'il faut y croire. Ça veut pas dire que ça va se passer exactement comme on l'espère, mais on a un potentiel de baisse de la dépense qui est de l'ordre de 60 à 100 milliards dans les prochaines années. Pourquoi ? Parce que quand on se compare avec les autres pays, on a 262 milliards d'euros de dépenses en plus tous les ans.
Mais on sait pourquoi, Agnès Verdier.
Oui, on sait, bien sûr.
On a un système socialisé qui est spécifique à la France, et voilà.
Oui, mais on sait aussi, Nicolas, que ça nous coûte environ 80 milliards de plus par an pour produire nos services publics par rapport aux autres pays comparables en Europe. C'est l'OCDE qui le dit, c'est le coût de production de nos services publics. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, on a énormément d'acteurs publics qui travaillent sur les mêmes politiques publiques, sur les mêmes missions publiques. C'est beaucoup mieux réparti dans les autres pays.
On parlait des doublons, entre la fonction publique d'État et la territoriale.
Oui, on le sait. Par exemple, tout le monde s'occupe d'éducation, tout le monde s'occupe de culture, tout le monde s'occupe plus ou moins maintenant un peu de santé. Et on ne sait plus trop qui est le pilote dans l'avion, entre les ARS, le ministère, etc. Et quand on voit ce qui se passe à l'étranger, on voit qu'ils ont beaucoup mieux réparti les missions publiques. Et on avait chiffré dans une étude pendant les débats présidentiels de 2020, 2022 qu'on pouvait transférer une centaine de milliards de l'État central vers les collectivités locales. Et rien qu'avec ça, derrière, on économisait presque une quarantaine de milliards d'euros par an. Donc, des économies.
Ça a l'air si simple à vous.
Non, mais des économies, il y en a énormément. On le sait. On sait très bien qu'on a un problème de productivité aussi dans les services publics. On connaît des taux d'absentéisme énormes dans nos administrations locales, notamment à la Fondation IFRAP. On a fait appliquer les 1607 heures qui sont les 35 heures dans les collectivités locales. Avant, c'était même pas appliqué. Les agents étaient payés 35 heures, mais ils réalisaient moins que 35 heures, 32 heures, 33 heures. Ça dépendait des collectivités locales. Donc, on a des capacités de, finalement, réduire la dépense. Mais après, derrière, c'est la dépense sociale aussi. Et ça, vous l'avez dit, le sujet, c'est aussi toutes les aides sociales qu'on verse en cumulé avec des niveaux d'aide qui vont atteindre les 130 milliards d'euros par an en aides sociales versées sous critères de ressources. Et là, il y a un sujet, et je pense que le gouvernement va le prendre en main, c'est le sujet de ceux qui sont éloignés de l'emploi, mais qui finalement ne sont pas du tout accompagnés vers l'emploi, alors que des entreprises cherchent pour embaucher. Il n'y a que 40% des personnes qui sont au RSA qui sont inscrites à Pôle emploi. Donc, il y a de la dépense sociale, il y a de la dépense de fonctionnement qu'on peut réduire. Il suffit, à un moment, de s'y pencher. On attend beaucoup de la revue de dépenses qu'a annoncé Bruno Le Maire.
Voilà, c'est la nouveauté, la revue de dépenses, et puis le fait de faire intervenir plusieurs chefs de cabinet du gouvernement pour passer au peigne fin l'ensemble des administrations. Agnès Michel, vous croyez qu'il y a la possibilité de réduire le poids de la dépense publique sans augmenter la fiscalité? Parce que finalement, les recettes d'Agnès Verdier, j'ai envie de dire, je les connais, je les ai entendues, mais on peut les répéter à chaque mandature, s'il ne se passe rien. Comment vous regardez cette histoire?
Alors déjà, je voudrais rebondir sur effectivement quelque chose que je partage, parce que je partage au moins une chose sur ce que vous venez de dire. C'est la décentralisation qui est toujours repoussée, voire en régression, hein, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, enfin les différents gouvernements Macron ont plutôt opté pour réduire les ressources directes des collectivités, directes, même si direct est un terme un petit peu abusif, mais la taxe d'habitation, par exemple, des collectivités territoriales. Il faudrait une clarification sur les ressources des collectivités territoriales, donc une vraie décentralisation, une vraie fiscalité lisible pour les citoyens qui sauraient à quoi les choses servent sur leur territoire. Après, sur l'éducation, c'est relativement clair, hein, quand même. C'est évidemment les communes qui s'occupent de la petite enfance. Ensuite, on a les départements pour le collège.
Oui, mais j'ai toujours trouvé ça étonnant qu'il y ait autant d'acteurs.
Je suis tout à fait d'accord. Il y a cette espèce de mélange, de la même façon que sur la taxe énergie, il y a une partie qui revient aux régions, une partie, tout ça est illisible et il est certain que ça mériterait d'avoir une transparence, ce serait beaucoup plus démocratique. Donc là-dessus, il y a un premier, effectivement, levier. Alors, d'accord. Économie, à quel niveau, à quelle durée, sur quelle échéance, je veux dire, ça, je n'en sais rien, mais parce que les mises en place sont toujours difficiles à mesurer. Le Sénat avait dit qu'il y aurait peu d'économies dans la fusion, par exemple, du département et des régions. Donc là-dessus, les avis sont
semblerait le Sénat ne se soit pas trompé.
Sont assez divergents, donc je serais mesurée sur les économies à court terme, en tout cas. Néanmoins, en termes d'efficacité et en termes de transparence démocratique, ce serait un plus. L'autre levier pour les réductions de dépenses publiques, ce serait supprimer un certain nombre de dépenses fiscales, dites les niches fiscales. Ah. Alors après, on peut avoir une discussion sémantique sur le fait de dire que ce sont des augmentations d'impôts, sauf que non, puisque ce serait la fin de baisse d'impôts.
Oui, donc, quand vous coupez une niche fiscale,
vous n'avez pas loin de son milliard. Je sais, il y a toujours un chien qui aboie.
Non, c'est pas ça. Mais quand on coupe une niche fiscale, quand on la ferme, quand on l'abroge, il y a forcément quelqu'un qui en pâtit parce qu'il en bénéficiait et pour lui, ça revient à une hausse d'impôts.
Bien sûr, mais la question, c'est pourquoi on en arrive à un tel cumul. On sait très bien qu'il y en a pléthore, qu'un certain nombre. D'ailleurs, c'était un travail qui avait été engagé par le gouvernement.
Il y a autant d'impôts qu'il y a de niches.
Oui, mais à un moment donné, ça veut dire deux choses. Bon. Ça veut dire soit que l'impôt a été mal conçu,
oui, mais c'est
soit
le cas, oui.
que certaines personnes, justement, aboient même avant la niche, suffisamment fort pour signifier leur impérieuse nécessité d'exception. Alors, et ça se discute.
Bruno Le Maire, lui, refuse catégoriquement l'idée que des impôts monteraient. Alors que ce soit carrément des hausses d'impôts décidées ou des hausses d'impôts par des baisses de dépenses fiscales.
Oui, mais dans ce cas, le débat, il est biaisé à la base. Alors, on est quand même sur 10% environ. Ces dépenses fiscales, elles représentent pas loin de 200 milliards. Si on n'aborde pas ce sujet-là, on n'aborde pas tous les sujets et c'est de l'hypocrisie.
Il faut peut-être aborder tous les sujets. Moi, on pourrait dire qu'on a quasiment autant d'impôts sur la production qu'il y a de niches en face, à peu près. Les montants sont relativement proches, mais...
C'est un très bon angle, celui que vous venez de donner, Nicolas. En fait, moi, je suis pas aussi fin connaisseur des méandres de notre fiscalité, de notre système de protection sociale.
C'est trop compliqué pour être un fin connaisseur. Mais ils sont peu nombreux à être fin connaisseurs.
Voilà, il y a, alors on connaît quand même des choses, il y a quand même un truc simple, c'est que quand on parle de dépenses publiques ou d'équilibre des comptes publics, il y a les dépenses et puis il y a les recettes. Et pour agir sur l'équilibre, il faut normalement augmenter l'assiette taxable pour que, à fiscalité inchangée, voire plus légère,
les recettes augmentent.
On ait plus de recettes. Et donc, ça veut dire que quand on a 57% de dépenses publiques dans le PIB, si on supprime des niches fiscales, on va se retrouver à 60%. C'est ça le truc. Or, il y a une analogie que j'aime bien, elle est un peu brutale, mais qui est une expression de Xavier Fontanet, je ne suis pas d'accord avec lui sur tout, mais là, j'étais assez truc. Il parle de la dépense publique française en disant ce jockey obèse qui fouette son cheval. Et je trouve que c'est relativement intéressant parce que la comparaison internationale, elle est là. On sait très bien que si on faisait baisser, parce qu'on dépensait mieux, plus efficacement, de tous les côtés, qu'on enlevait les redondances, notamment la réforme territoriale, elle est essentielle. On a raté nos décentralisations. Eh ben, on allégerait la pression. Et donc, on laisserait l'assiette privée se développer, et donc on aurait plus de recettes à poids de la fiscalité et des dépenses sociales inchangées.
C'est un peu un objectif de la réforme.
Un sujet français, hein,
augmenter le taux d'activité.
Voilà. Et il y a juste un sujet français particulier, c'est qu'on a un système de protection sociale extrêmement développé auquel, normalement, les Français sont très attachés. En même temps, ça fait longtemps qu'on leur a pas demandé démocratiquement quelles étaient leurs priorités sur l'essentiel qu'on doit préserver dans ce système de protection sociale ou renforcer. Et moi, j'ai une vision. C'est qu'en fait, on a en ce moment des dizaines de professeurs nimbus qui nous expliquent, prétendument économistes, qui nous expliquent qu'il faut augmenter la pression fiscale sur les plus riches. Moi, je crois qu'il faut augmenter la pression sociale sur les plus riches. Je m'explique. Je pense qu'il faut bétonner, renforcer notre système de protection sociale pour les plus modestes. Et je pense qu'il faut accepter que les plus aisés vont payer leur médecine de leur poche un peu plus cher. Et éviter de toucher à la fiscalité, mais leur demander de faire un effort plus élevé sur la partie sociale. À condition que le débat posé aux Français ou la question posée soit claire en disant quelles sont vos priorités dans la dépense publique et notamment côté social, qu'est-ce que vous voulez préserver ou renforcer et à quoi êtes-vous d'accord pour renoncer ?
Agnès Verdier, vous vouliez réagir à ce qui a été dit, je ne sais pas dans quel sens, je vous laisse repartir.
Non mais vous avez dit Nicolas, à un moment, il y a autant de niches fiscales en faveur des entreprises que de taxes de production.
On n'est pas loin, on n'est pas loin de quelque chose qui se ressemble.
On a fait une étude à la Fondation IFRAP, on montre qu'il y a 148 milliards d'impôts payés en plus sur la totalité des prélèvements obligatoires par nos entreprises par rapport à la zone euro hors France.
Donc nos entreprises payent 148 milliards de plus.
C'est ça.
Que les entreprises des pays voisins qui nous ressemblent.
De la zone euro hors France. Et c'est quand même un chiffre très, très élevé. Et en 2017, c'était 149. Donc 148, c'est en 2021, déjà après le début de la baisse des taxes de production. Ça fait 13,2 points de PIB et pour la France. Et ça fait 7,3 points de PIB pour la moyenne zone euro. Et quand vous dites finalement, si on enlevait les niches fiscales pour les entreprises, etc., c'est un exercice qu'on a fait à la Fondation IFREP, on enlève les niches fiscales, les niches sociales, là on arrive à 18,9 points de PIB. C'est-à-dire que si on commence à dire, on enlève des niches fiscales ou des niches sociales qui permettent de payer moins de cotisations sur les salaires, etc.
En parallèle, il faut baisser les prélèvements obligatoires.
À ce moment-là, on a une explosion. Parce qu'on est presque à 19% par rapport au PIB d'impôts pour nos entreprises, alors que la moyenne, c'est autour de 7% dans la zone euro. Donc, si on veut vraiment se tirer des balles dans le pied, il faut aller dans ce sens-là. D'ailleurs, je rappelle que, contrairement à ce qu'a dit Gabriel Attal quand il s'est exprimé sur la question de la revue de dépenses, en disant, attention, il ne faut pas que ce soit une austérité, il ne faut pas que ce soit comme ça a été.
Il a très vite réagi après que Bruno Le Maire a dit qu'il voulait réduire les dépenses publiques.
Après la crise financière et tout ça. Même si je pense que, quand même, Gabriel Attal a envie de baisser les dépenses parce qu'il voit bien la situation de son poste. La situation des finances publiques françaises qui est absolument catastrophique. Mais il a bien dit, attention, on ne veut pas recommencer l'austérité et faire ce qui a été fait après la crise de 2008. Mais en sous-entendant que finalement, qu'on avait trop baissé les dépenses. Et en réalité, on n'a pas du tout baissé les dépenses après la crise de 2008. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a continué à augmenter un peu les dépenses publiques et on a massivement augmenté les impôts.
Oui,
on est passé de 41% de taux de prélèvement obligatoire à 45%.
Oui, ça a été de l'austérité fiscale.
Donc, en fait, l'austérité fiscale, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est finalement à un moment regarder comment on utilise chaque euro d'argent public. Et c'est ce que font les pays du nord de l'Europe.
J'espère qu'on en est capable.
Si on responsabilise chaque ministre du gouvernement, qu'on lui dit à chacun de regarder comment il peut baisser sa dépense et réorganiser, si on fait une vraie revue des missions publiques, si on responsabilise le Parlement en lui permettant d'avoir un organe d'audit avec, c'est ce qu'on a proposé depuis des années, c'est ce que font les Britanniques.
C'est le travail de la Commission des Finances associé au travail de la Cour des Comptes.
La Cour des Comptes ne travaille pas pour la Commission des Finances.
Non, il travaille.
La Cour des Comptes reste à équidistance. D'ailleurs, on l'a vu dans son rapport annuel. C'est très intéressant son rapport annuel, mais finalement, on n'apprend rien.
Non.
On est d'accord ? On n'apprend rien. Et derrière, il n'y a aucune proposition chiffrée. L'année dernière, ils étaient allés un peu plus loin en disant qu'il fallait faire 9 milliards d'euros d'économies par an. Mais là, on voit quoi ? On ne voit pas de proposition chiffrée, on ne voit pas d'issue. Donc en fait, ils disent il faut baisser la dépense, il faut faire une revue de dépenses. Mais finalement, la Cour ne fait pas de proposition. Alors que l'homologue, entre guillemets, de la Cour des comptes au Royaume-Uni, le NAO britannique, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des propositions de baisse de dépenses et il évalue derrière avec le Parlement, avec la Chambre des communes. Il y a une sous-commission de la Commission des finances qui est en charge, qui en permanence regarde les rapports de cet organe d'audit. Et donc chaque euro d'argent public est regardé de manière hyper précise. Alors que chez nous, qu'est-ce qui se passe au Parlement sur ce sujet ? Quasiment rien.
Valérie Rabault, à l'époque, disait qu'elle avait essayé de jouer son rôle de parlementaire de la Commission des Finances, notamment en faisant des descentes carrément à Bercy pour essayer d'aller voir les choses d'un peu plus près.
En 2004 déjà, et même dans les années 90, à la fin des années 90, il y avait eu toute la réflexion autour de la LOLF avec Didier Migaud, Alain Lambert. Ensuite, on a eu des tas de discussions là-dessus avec Carrez, Meignery, etc., etc. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a jamais renforcé le pouvoir du Parlement parce que finalement, les administrations centrales préfèrent garder les datas pour elles, les analyses pour elles et s'auto-évaluer.
Vous expliquez que vous avez vous-même beaucoup de mal à accéder à des documents qui devraient être publics. Bah.
Mais oui, il y a énormément de documents sur lesquels on a travaillé, des rapports de l'Inspection Générale des Finances et d'autres qui devraient absolument être publics. Pourquoi ? Parce que c'est une information vis-à-vis de nos concitoyens. Et par exemple, sur le dossier retraite, ça aurait servi qu'on ait une vraie pédagogie sur le lien entre la réforme des retraites, la question de la dette, la question de la charge de la dette, la question des taux.
Je vais en parler dans un instant. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce chantier que j'entends, mais auquel j'ai du mal à croire, je ne vous le cache pas. Agnès Michel.
Oui, non, ce n'est pas dans la culture française. C'est bien dommage, d'ailleurs, mais ça fait partie de tous les éléments de transparence autour de l'argent, des budgets, des entrées, des sorties. C'est une problématique qu'on a depuis très longtemps, et ça se retrouve sur les questions de décentralisation. De savoir qui décide par rapport à ce qui est payé à chaque instance. Et c'est ça le sujet. Je reprécise quand même, en petite correction, c'est qu'il faut toujours faire attention. Les prélèvements obligatoires qu'il y a dans les prélèvements obligatoires, ce qu'on appelle communément les impôts, ça ne sont pas les impôts. Ce sont les impôts, mais aussi les cotisations sociales. Oui. Les cotisations sociales, ça n'est pas un coût sec pour les entreprises qu'il faut mettre au même plan que les impôts, parce que dans les autres pays, ils les rajoutent en salaire pour que les gens puissent s'assurer de façon privée. Donc, attention à ne pas mélanger les deux. Le problème, ça fait aussi 15 ans que ça dure, et ce serait bien qu'à un moment donné, on ait de la transparence sur ce sujet-là. C'est déplacer le sujet, c'est pas de l'impôt en plus.
Il y a une question d'effet d'agence. Il y a une question de où est-ce que c'est le plus efficace.
Non, mais les cotisations sont considérées comme du salaire différé, vous connaissez l'expression.
Alors à ce moment-là, si on suit votre logique, on devrait avoir des salaires beaucoup plus élevés en super brut en France, et c'est pas le cas.
Bah non, justement.
La réalité, c'est qu'on n'est pas mieux payé. Chez nous, quand le patron paye 100, on récupère que 46 euros à la fin. Alors que dans les autres pays de l'Union européenne, c'est 58.
Bah, évidemment, directement notre assurance. On ne paye pas nous-mêmes notre assurance, c'est parce que c'est pris à la source. Donc c'est évidemment extrêmement logique ce que vous venez de dire. Il ne faut pas confondre. Allez dans d'autres pays, il y a des salaires supérieurs.
C'est vrai qu'on a un problème de salaire net dans la mesure où il y a beaucoup de cotisations.
Les salaires nets sont très faibles en France.
Oui, les salaires sont très faibles en France, mais parce qu'il y a une partie des dépenses qui est déjà ponctionnée avant. Donc c'est ça.
La logique n'est pas hyper claire. Quand on regarde ce qui se passe en termes de création de richesses dans les pays du nord de l'Europe, qui finalement ont des niveaux d'imposition qui sont plus faibles et qui, à la fin, ont des meilleurs salaires et ont un PIB par habitant qui est quasiment deux fois plus élevé que le nôtre. On est à 60 000 au Danemark, on est à 39 000 en France. On voit bien qu'on est en train de se paupériser en France. Et c'est aussi les résultats d'un modèle social qui n'est pas du tout ni évalué, ni restreint, ni finalement soutenable.
Qu'on le réévalue, simplement ne confondons pas entre l'impôt et de l'assurance qui est socialisée. Ça n'est pas la même chose et on ne peut pas comparer.
On ne fait pas la confusion
final,
ici, Agnès.
Le compte de résultat final des entreprises ne serait pas aussi divergent que vous le dites, parce que de toutes les façons, il faudrait augmenter dans ces cas-là les salaires pour que les gens puissent s'assurer.
Un truc microéconomique.
J'ai envie de dire 1 minute 30, on marque une pause. Après, on verra l'effet sur l'OAT et on parlera du
Un truc microéconomique assez simple. Ça, il y a un sport national des experts comptables, je connais bien la profession, qui consiste à arbitrer pour un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise. Est-ce qu'il doit choisir le statut président ou présidente de SAS, assimilé salarié, ou est-ce qu'il doit choisir gérant d'SARL? Bon. Et donc, dans l'immense majorité des cas, gérant de SARL est plus efficace que président de SAS, à condition, parce que ça dégage des ressources qui vous permettent de financer vous-même le complément de protection sociale, ce qui montre qu'il y a quand même un effet d'agence dans la façon dont la dépense sociale est constatée en France, et qu'on pourrait peut-être être plus efficace en l'orientant mieux, que ça reste public ou non. Il y a de l'efficacité à trouver. Ensuite, pour dire des choses très simples, on a une des meilleures administrations fiscales du monde.
Oui, c'est clair.
Du monde.
C'est
d'ailleurs, on l'exporte, elle va donner des conseils aux autres pays, et
ça,
plutôt
l'impôt,
bien.
Ça, l'impôt, ils savent le
pourquoi? Parce que, alors, je vais pas faire de la philosophie et de l'histoire de bas étage, mais en fait, la construction de la nation française s'est faite sur l'état finance beaucoup plus que sur l'état de droit. C'est prouvé. Il y a plein de gens qui ont fait de la recherche là-dessus, c'est magistralement prouvé. Mais on a un sujet qui est vraiment, pour moi, essentiel, c'est que quand, et ça m'est arrivé dans ma vie d'entrepreneur, et ça m'arrive encore, d'aller défendre un amendement, on va à Bercy défendre un amendement. Les gens de la fonction publique fiscale n'ont pas le droit, si on propose la baisse d'un prélèvement, n'ont pas le droit de calculer le résultat ou l'anticipation de ce qu'on en attend, en faisant une hypothèse d'augmentation de l'assiette taxable, parce qu'on a allégé quelque chose, il y a quelque chose qui va se développer, qui va être plus large, et donc un taux plus bas sur une assiette plus grande va donner plus de recettes fiscales ou va permettre d'équilibrer. Ils sont obligés de raisonner à assiette inchangée. Tant qu'on ne peut pas les faire travailler avec des hypothèses, ils ont des statisticiens extraordinaires, on a le corps de l'ENSAE, etc., des administrateurs de l'INSEE, tant qu'ils ne peuvent pas faire des hypothèses d'augmentation d'assiette quand on baisse un prélèvement, on n'arrivera pas à avoir des politiques de réforme de nos dépenses publiques qui fonctionnent.
Attention, le coin social, il est très en défaveur en France des hauts salaires.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut redire.
On a déplafonné les cotisations.
Pourquoi? Parce que quand on a remplacé, par exemple, l'assurance chômage, la cotisation chômage et maladie par de la CSG, il n'y a pas de plafond. Donc, on paye sur des niveaux hallucinants par rapport à ce qu'on a en face en termes de services.
Après la réforme des retraites, faut-il s'inquiéter pour le taux de la dette française? On pose la question dans un instant et puis on ouvrira ce rapport du GIEC qui change un petit peu la façon d'aborder le sujet du réchauffement climatique. À tout de suite.
Est-ce la bonne décision? Est-ce trop tard pour moi? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Agnès Michel, membre du comité éditorial de Terra Nova, Agnès Vardier-Molinier, directrice de la fondation IFRAP, l'Institut français de recherche sur les administrations publiques, et qui a publié Le vrai état de la France, les citoyens ont le droit de savoir, aux éditions de l'Observatoire. Vous disiez catastrophique. Jérôme Dédéian, associé de toutsurmesfinances.com, président de Mon Partenaire Patrimoine. Agnès Vardier, est-ce que vous redoutez que l'incertitude, le chaos, entre guillemets, autour de la réforme des retraites se répercute sur le taux de l'obligation assimilable du Trésor?
Bon, déjà, il faut dire qu'on est autour de 2,8 sur l'OAT à 10 ans. Pour la France, on est monté un peu plus haut il y a quelques jours.
On a touché les 3.
On avait déjà touché les 3 en décembre. Bon, c'est élevé par rapport à ce qu'on a connu il y a encore un an et demi. On était vraiment autour de zéro. Là, on est vraiment dans des niveaux qu'on avait expliqué à la Fondation IFRAP. On avait dit, et j'avais sorti un papier l'année dernière sur ce sujet, toute une note d'analyse, on disait attention, on va vers les 100 milliards de charges de la dette en 2027. Derrière, la Banque de France avait sorti sa propre note en disant que c'était plutôt 100 milliards ou 3% du PIB en 2032. Donc, on sait qu'on est quand même vers une augmentation de la charge en milliards de la dette par an. Là, ce qu'on a vu en 2022 est assez hallucinant, hein, parce qu'on avait prévu 39 milliards de coûts annuels de la dette. On est à 51. Et là, pour cette année 2023, quand on titille un peu les gens du gouvernement à Bercy et qu'on leur dit, mais alors, on va être à combien? On comprend qu'on est plutôt autour de 60 milliards. Hein.
Absolument.
Il faut savoir aussi qu'on avait beaucoup sonné l'alarme à l'IFRAP en disant, attention, il y a 10% de la dette qui est indexée, en fait, hein, de la dette négociable, qui est indexée sur l'inflation.
Ce qui explique notamment ce dérapage.
C'est ça. Et on avait dit, attention, et ça fait plusieurs années, hein, 4 ou 5 ans, qu'on avait commencé à dire, comparer avec les autres pays, dire, attention, les autres pays ont réduit énormément leur voilure sur la dette indexée et tout. Mais finalement, comme on a besoin de profondeur de marché, bah, on continuait à faire de la dette indexée sur l'inflation pour permettre d'avoir des taux nominaux plus faibles sur ce que, finalement, ce qui n'était pas indexé. Donc, moi, je réponds à votre question, Nicolas, que, un, le 49.3, au contraire, là, pour l'instant, bah, ça va empêcher une dégradation de la note de la France. Pourquoi ? Parce que les agences de notation avaient été très claires avant le vote de la réforme des retraites. Elles avaient dit, en gros, on vous dégradera si la réforme des retraites ne passe pas. Donc, derrière, on avait un risque de montée des taux et un risque d'augmentation encore du coût annuel de la dette, qui, à un moment, va devenir insupportable. Hein. Si on atteint le niveau de la dépense d'éducation nationale, là, je pense que ça commencera à faire vraiment mal. Donc, est-ce que la question du 49.3, ben, la Moody's a un peu dit hier, attention, c'est vrai que si on est obligé de dégainer le 49.3 à chaque fois pour faire passer une réforme, ça commence à devenir problématique. Je sais que ce n'est pas vraiment encore le moment de le dire, mais je pense qu'à un moment, si Emmanuel Macron veut continuer à réformer, il sera obligé de faire un gouvernement de coalition. Je ne vois pas d'autre issue. Parce que, en réalité, quand on compare avec tous les autres pays et qu'on dit, mais finalement, dans les autres pays, on arrive à voter avec des majorités un peu hétéroclites, etc., ce n'est pas le cas de la France parce que finalement, on ne fait pas cet accord de coalition avant la constitution du gouvernement.
À la différence de l'Allemagne.
À la différence de l'Allemagne. Et ça, il faudrait carrément un protocole en disant, voilà, quelles réformes sont urgentes? Qu'est-ce qu'on fait? Justement, la revue de dépenses, les questions sur les retraites, les questions sur le travail, sur le chômage, etc., sur la gestion des aides sociales, sur la fusion des aides, sur est-ce qu'elles sont gérées au niveau départemental, etc. Enfin, toutes les questions, en fait, de fond, hein, sans aller dans des organisations systémiques incroyables et dans des réformes vraiment extraordinaires, mais en faisant ce qu'on doit faire pour gérer correctement ce pays. Et donc, après, on va voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent, mais je ne crois pas que le 49.3 soit un problème pour les marchés. Je pense qu'en revanche, l'immobilisme peut être un problème et peut faire monter les taux et peut faire dégrader la France, parce qu'à un moment, on dira, mais qu'est-ce que c'est? Un pays qui ne peut pas réformer du tout et qui est incapable de faire passer des lois.
C'est Moody's qui dit, après le 49.3, il s'interroge un peu sur la capacité à réformer ensuite. Alors, si on fait que du 49.3, on peut en faire en session extraordinaire en juillet, on peut en faire en session extraordinaire en septembre, et puis en octobre, un 49.3 hors loi de finances.
Après, le 49.3, dans l'histoire de la 5e, il a été énormément utilisé.
Oui, mais bon, il est devenu...
Rocard l'a utilisé 28 fois, il ne faut pas non plus exagérer le fait que son utilisation, soi-disant, certains pensent que c'est...
On n'a jamais vu des gens manifester non au 49.3 il y a quelques années, maintenant c'est le cas.
Oui, mais voilà, là c'est l'hystérisation.
Ah ben oui, oui, mais il faut en tenir compte.
Que l'on connaît, mais qui malheureusement, les mêmes qui aujourd'hui manifestent n'ont pas dit au moment où on a dépensé sans compter qu'il ne fallait pas dépenser sans compter. Hein. Bizarrement.
Jérôme Deléon, l'histoire de l'OAT, alors la réforme des retraites.
En fait, la façon dont j'aborde
le sujet... Faites un peu plus court pour qu'on puisse avancer.
Avec mon bon sens paysan, la façon dont j'aborde le sujet de la dette et de la charge de la dette, c'est exactement comme le réchauffement climatique, c'est-à-dire que ça monte, et puis à un moment, il y a un effet de déversement, ça accélère et on n'arrive plus à la maîtriser. Et donc, c'est lié à ce qu'on émet comme nouvelle dette, l'augmentation du stock à cause des déficits publics, c'est lié à la partie qui est indexée, les 10% dont parlait Agnès Verdier, et puis c'est aussi le renouvellement des lignes anciennes qu'il faut replacer sur le marché.
On
ça tourne à peu près en 7 ans, je crois que c'est à peu près ça l'ordre de grandeur.
Oui, 8 ans, voilà.
Oui, c'est ça.
Et donc, il y a un enjeu, je dirais, cumulatif qui fait qu'en fait, ça accélère avec ce renouvellement quand on est passé d'un environnement de taux négatif à un environnement à 3% aujourd'hui. Et si on continue un peu à monter les taux, si les banques centrales continuent un peu à monter les taux, ça va s'aggraver. Et ça s'aggrave dans le temps. Et donc, c'est essentiel, évidemment, de travailler sur la dépense publique. Et on a évidemment envie d'y croire. Et je suis absolument d'accord avec l'idée que, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il va falloir proposer aux Français le socle qui permet d'obtenir une majorité sur les grands trucs qu'on veut faire. Qu'est-ce qui compte pour nous ?
et sur lequel on va prioriser notre dépense, et qu'est-ce qui compte moins, sur lequel on va faire les économies. Et c'est vraiment ce contrat-là, ce nouveau contrat-là, qu'il faut proposer, et il faut essayer de le faire avec la majorité la plus large possible, peut-être dossier par dossier, et non pas au global, si c'est possible politiquement, parce qu'à défaut de ça, on n'aura pas de majorité pour aller dans le bon sens et éviter cet effet d'accélération de la charge du coût de la dette.
Agnès et Michel, sur ce sujet.
Alors, je vais prendre plutôt sous l'angle un peu plus politique. C'est vrai que ce 49-3 aujourd'hui, c'est pas tellement. Enfin, ça montre un blocage des institutions. On a parlé tout à l'heure de la question de la décentralisation. Là, c'est pareil. C'est quelle représentation on a pour effectivement aborder les projets, les sujets. Justement, ma voix a dépassé, est allée plus vite que ma pensée. Je me dis, faudrait fonctionner en mode projet. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un certain nombre d'enjeux. Alors, j'aurais pas la même hiérarchie que mes comparses sur ce plateau. Puisqu'évidemment, je pense que le premier sujet à mettre sur la table vite, et puis cette fois-ci, elle est vraiment jusqu'au bout, et ne pas détourner le sujet
sur la transition
énergétique. Non, de façon générale, énergétique, mais biodiversité dans l'ensemble. Aujourd'hui, par exemple, pour faire un zoom, on a les préfets qui décident d'absolument tout ce qui se passe sur un territoire. Ça n'est pas une institution démocratique, puisque c'est une désignation par des gens désignés. Donc c'est vrai que c'est un problème de transparence, et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu à l'acmé de ce problème de transparence et de démocratie, et c'est là qu'il faut retrouver les ressources en termes de discussion publique pour vraiment aborder les sujets. On va peut-être parler du GIEC,
mais bien sûr,
qui est quand même
parler.
Un sujet un petit peu plus grave que les retraites, parce que finalement, de la dette, une faillite, tout ça, il y en a eu plein. L'Espagne a fait faillite à la fin du 19e siècle, et le pays est toujours là. Mais par contre, les problématiques de changement climatique et l'impact sur la biodiversité, dont nous faisons partie en tant qu'être humain, juste pour petit rappel, ça, c'est-à-dire que si la biodiversité s'effondre, on s'effondre également, pour clarifier ma pensée. Donc
d'accord.
Là, je pense qu'effectivement, il y a un vrai sujet, et c'est un sujet aujourd'hui dont on voit les limites. Le GIEC a une... vous disiez tout à l'heure que le GIEC avait une façon plus positive de prendre les de présenter les choses. Je trouve ça intéressant. Je pense que ça vient au fait qu'on les ait beaucoup accusés d'être très négatifs, très mortifères, en dystopie totale. Et ben là, ils font l'effort et ils pointent du doigt le sujet, qui est effectivement un sujet qui est pointé du doigt depuis extrêmement longtemps, c'est la question du financement de l'ensemble des transitions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question n'est pas de courir toujours après de la dépense, du surinvestissement dans certaines technologies. La question, c'est comment on investit la transition pour marcher sur les deux pieds, c'est-à-dire de l'innovation, très bien, mais de la réduction drastique d'un certain nombre de comportements et de consommation qui génère des pollutions et des effets délétères sur le climat et la biodiversité. C'est extrêmement important aussi, sauf que ça n'est pas rentable de faire du moins. Donc aujourd'hui, il faut absolument avoir des outils de mesure des projets financiers, d'investissement, de réformes publiques, de réformes sociétales, pour que investir sur une meilleure consommation importante pour tout le monde soit rentable, ou en tout cas considéré comme quelque chose de valorisable. Et
c'est
ça,
ce que
c'est
dit
un
le
sujet
GIEC.
Exactement.
Voilà, ils disent que
c'est
le...
pas nouveau comme problématique,
c'est plus...
mais c'est extrêmement important.
Ça coûte plus cher de ne rien faire, mais le mot coûter plus cher, c'est pas que économique. Voilà, c'est des quantités d'aspects de l'existence.
C'est qu'on ne mesure pas bien le PIB, par exemple, ne prend pas en compte le bien-être, il prend en compte les pollutions de façon positive, on le sait tout ça. Donc aujourd'hui, c'est quel instrument de mesure,
d'accord,
pour que le progrès environnemental et donc social soit mesuré de façon positive.
Rapport du GIEC qui nous dit le pire est encore évitable. Donc justement, c'est pas le côté où on va tous mourir. Si on peut tous survivre, si on fait ce qu'il faut, mais on a le savoir-faire, la technologie, les outils, les ressources financières pour diminuer les émissions de CO2, freiner le réchauffement climatique, nous dit donc cette énorme synthèse de 8 ans de travaux. Mais ça coûte très cher, Jérôme.
Ouais,
il faut que les dépenses, les investissements publics et privés soient 3 à 6 fois supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui pour rester sous les 2 degrés, nous dit le texte.
Moi, j'accueille avec beaucoup de bienveillance et de satisfaction ce changement d'angle de communication du GIEC.
Moi aussi.
Je pense qu'il y a de la tactique là-dedans.
Sûrement.
Ils ont vu que agiter le chiffon rouge en disant c'est horrible, on va tous mourir, ça marchait pas, pour modifier sensiblement les comportements. Donc ils essayent d'aborder la chose sous un angle plus positif, et je trouve que c'est une bonne façon de faire. Bon. Après, on a un sujet, c'est que je suis intimement persuadé de deux choses. Premièrement, On arrivera à flécher l'investissement vers la transition que si il est aussi rentable que l'investissement pas dans la transition. Ça s'appelle le marché. Ah. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que l'essentiel du boulot, il y a évidemment tout ce que chacun de nous fait à titre individuel dans son changement de comportement. Il y a éventuellement un peu de punitif, le moins possible, si possible, parce que j'aime pas beaucoup qu'on restreigne mes libertés publiques. Mais je suis persuadé, et c'est ce que je fais en tant que militant de la cause, je suis persuadé que ce sont les entreprises la solution. Et que donc le pivot viendra des entreprises. Pourquoi ? Bah parce que c'est l'innovation des entreprises qui va permettre d'irriguer les comportements, d'irriguer la façon de produire, d'irriguer la façon de consommer. Et il faut que les usages que les entreprises proposent et qui seraient décarbonés soient des usages qui rendent le même service, sans punition, sans dégradation du service, sans dégradation des fonctionnalités du produit, que rendent les produits qui sont plus carbonés qu'on a l'habitude d'utiliser aujourd'hui. Et donc c'est par l'innovation des entreprises que ça va se passer. À titre personnel, comme on est obligé de choisir ses combats, je fais pas mal de choses, mais j'ai décidé d'aller dans une association qui s'appelle Entrepreneurs pour la Planète, qui prend des entrepreneurs expérimentés, et hommes ou femmes, et qui coach, qui mentore des porteurs de projet à impact du secteur privé.
Et l'analyse financière, voilà. est-ce qu'elle correspond à la...
Ma chère Agnès, la façon dont je raisonne en tant que mentor, je mentore deux projets, d'accord ? Non. Un dans la cosmétique et un dans l'agriculture, en tout cas la sylviculture. Ces deux projets-là, comment je les gère ? Je les gère comme entrepreneur, en tant que mentor, et j'essaye de faire en sorte que leur modèle économique soit soutenable sans aide. Que ce soit des entreprises qui aient des perspectives de rentabilité pour attirer les capitaux. Et donc, il y a des projets qui peuvent passer ce cap-là, il y a des projets qui ne peuvent pas passer ce cap-là, et mon rôle de mentor, c'est de discerner s'ils peuvent ou pas, pour qu'on concentre nos efforts sur ceux qui peuvent passer la barre.
Pourquoi ne pas changer la mesure, économique. Pourquoi ne pas changer la comptabilité et les analyses financières pour que, justement, soient favorisées, comme on peut le faire aussi sur la question de la notation, de la cotation des risques pour les banques, ne pas véritablement faire en sorte, parce qu'aujourd'hui, notre problème économique, c'est qu'ils ne comptabilisent le vivant.
D'accord, ça s'appelle un passif. Donc on peut évidemment,
dans la comptabilité aujourd'hui.
On doit le faire dans plein de débats, on doit effectivement travailler sur ce qu'on appelle les externalités négatives ou positives et comptabiliser dans le bilan le passif d'un truc de production et pas seulement un compte de résultat. Mais il y a un truc très simple, c'est qu'à la fin c'est des euros. C'est-à-dire que moi quand je vis en tant qu'être humain, quand je paye mon toit, quand je vais au supermarché nourrir ma famille, quand je mets de l'électricité ou de l'essence dans le véhicule que j'utilise, je dépense des euros. Je ne dépense pas une monnaie écologique qui sert à mesurer je ne sais quoi. Et donc à la fin de la journée, même en tant qu'investisseur, je vais quand même regarder mon ROI. Alors je peux décider de dégrader mon ROI parce que l'investissement que j'ai en face de moi me semble plus vertueux que celui d'à côté, mais ce n'est quand même pas le comportement rationnel d'un acteur financier et d'un investisseur.
Alors Agnès Verdier, allez-y. On pourra poser la question de savoir s'il faut coûte que coûte maintenir la date de 2035 pour cesser de vendre des moteurs thermiques en Europe, par exemple.
Bah oui, rappelons quand même qu'on n'est qu'à 4 tonnes de CO2 émis par habitant en France.
Non.
Moins de... Bah si. Non. Parce que si on rajoute l'importé, oui, ça double. Ah oui. Mais attention, attention.
Bah on consomme avec nos fameux euros.
Attendez, laissez-moi finir. On est quand même dans un pays hyper vertueux, hyper décarboné. J'ai pas entendu beaucoup parler du nucléaire encore, là.
On n'en a pas encore parlé.
Non, mais c'est bizarre quand même. Parce que le GIEC, il est énormément focalisé sur les éoliennes, le photovoltaïque. Et alors, et notre nucléaire, alors ? Il n'est pas renouvelable ? On ne doit pas le compter dans les énergies renouvelables ?
C'est le combat de Bruno Le Maire à Bruxelles.
C'est pas une énergie verte ? C'est pas décarboné ?
Si.
Alors pourquoi ? Il y a une idéologie derrière. Est-ce qu'on ne veut pas reconnaître notre nucléaire comme décarboné ? Donc déjà, un.
C'est pas un rapport sur la France.
Non, mais d'accord. Mais bon, il n'y a pas qu'en France que le nucléaire existe.
Je suis d'accord, mais cet enjeu est essentiel.
Non, l'énergie mondiale. Ensuite, on nous dit, finalement, en France, il faut décarboner encore plus. Sur les voitures électriques. La question de 2035, où on interdirait, parce qu'à mon avis, je pense que ça ne va pas être 2035.
Les Allemands ont dit non.
Oui, mais heureusement. Heureusement que certains défendent un peu les industries européennes. Parce que, est-ce que nos industries en France, automobiles, elles seront prêtes en 2035 pour produire que de l'électrique ?
Carlos Tavares a répondu depuis des mois.
C'est non. C'est non. Donc, on veut détruire 100 000 emplois en France ? C'est ça qu'on veut faire ?
Est-ce que c'est le prix à payer ?
Et on veut importer des voitures chinoises ?
Je sais pas, on a déjà produites
avec
dans l'automobile sans la concurrence
de
l'électrique. Donc,
la valeur ajoutée.
Je pense qu'il y a un problème de fond qu'il faut remonter un petit peu plus en hauteur.
Il y a un énorme problème si on tient cette date de 2035. Vous pouvez pas dire le contraire. Parce que
les industriels,
par exemple,
le disent,
les Américains, ils sont aussi pour la décarbonation, ça vous a pas échappé. Ils sont aussi pour neutralité carbone en 2050. Et en 2030, ils ont fixé une date et ils ont dit, nous, on sera à 50% de véhicules thermiques neufs vendus, 50% électriques, mais les hybrides, ils comptent dans les électriques. Nous, on est dogmatiques. Et on veut s'imposer des dates pour lesquelles on ne sera pas prêt. Alors que les pays des Émirats, etc., ils vont continuer à produire plus de 10-18 tonnes de CO2 par habitant et par an. Et nous, on est à 4 en France, on est désindustrialisé, on est à 9% d'industrie dans le PIB, alors que les Allemands sont au double. Et on va dire qu'on va encore se donner des objectifs. Je rappelle aussi qu'on s'était donné l'objectif de 50% de nucléaire dans le mix énergétique.
Oui, et c'est heureusement 2012, François Hollande, et c'est en train d'être détricoté par les parlementaires.
Heureusement, mais on a mis combien de temps à atterrir?
Les auditions de la semaine dernière étaient consternantes pour un citoyen.
Je veux bien qu'on se donne des objectifs de décarbonation, mais si en même temps on est dans des objectifs en fait de désindustrialisation, c'est non. Si on se dit qu'on peut profiter de la décarbonation pour réindustrialiser la France, pour relocaliser en France, et peut-être que ça augmentera les émissions de CO2 par habitant, parce qu'il y aura peut-être une phase de transition où il faudra admettre qu'on doit pouvoir augmenter les émissions de CO2 sur le sol français par habitant pour pouvoir réindustrialiser la France. Si on continue à faire l'autruche, on va avoir encore moins d'industrie dans notre pays.
Le rapport du GIEC n'est évidemment pas aveugle sur le fait que les efforts ne sont pas les mêmes partout et que c'est inégalement réparti.
Vous avez vu comme moi la loi climat-résilience.
Oui.
Il y avait une étude d'impact. Où étaient les chiffrages du nombre d'emplois créés ou détruits? Il n'y en avait pas. C'est une honte, Michel, de voter des textes avec autant de normes, autant de réglementations, autant d'impact sur la vie des Français. Et autant de dépenses supplémentaires.
Non, mais c'est très bien.
Bon. Agnès Michel, notamment peut-être sur la date de 2035.
Il faut réindustrialiser, etc. Bon, je répète quand même, si effectivement les Émirats ont autant d'émissions par tête de pipe, c'est parce qu'on localise la production. Mais par qui il est consommé ce pétrole? Il n'est pas consommé par les Émirats tout seul. Il est consommé par des pays peuplés comme le nôtre. Mais non, mais il faut savoir.
On pourrait peut-être produire un peu plus en France déjà, ce serait déjà un postulat de départ.
Si on produit plus en France.
Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être naïf ou hypocrite ou carrément mensonger sur le fait qu'évidemment qu'une bonne partie des émissions carbone sont produites par les pays riches dont la France, et ça n'est absolument pas les 4 tonnes par habitant.
On est à moins de 1% des émissions alors qu'on est à 4% du PIB mondial.
Aujourd'hui, on a une part de responsabilité en étant en France, un pays riche, et en Europe, la première zone commerciale
Du riche,
monde.
Il faut dire vite.
Donc, oui, OK, il y a 160 pays dans le monde, on est en 6e ou en 7e place. Bon, même selon vos critères de richesse, qui sont pas forcément ceux qu'on partage tous.
On est 25e par habitant.
Ouais, non mais d'accord.
Enfin, voilà.
D'accord, OK. Il y a 10 millions de pauvres.
Il y a 10 millions de pauvres.
On est assez lamentable, mais il se trouve que il y a quand même beaucoup moins de gens dans des situations dramatiques que par exemple ce qui se passe au Bangladesh régulièrement, notamment.
Allons droit au but, Agnès, parce que
la question aujourd'hui, c'est comment on fait pour avoir une transition qui, au-delà de l'emploi, et j'entends bien la fin du mois, mais permettre qu'on passe l'année, qu'on passe l'été, qu'on passe l'hiver, et que effectivement il y ait des perspectives pour les générations qui vont venir, et même nous-mêmes, parce que on pouvait se dire jusqu'à présent qu'on ne serait pas titillé par les problématiques environnementales et que finalement, pour paraphraser Pouyanné, en 2049, on ne serait plus là, donc peu importe ce qui se passe après, mais en fait, ça va nous toucher, nous. On va les vivre, ces transformations. Donc la question, elle est, quelle priorité on met sur la table? Et là, effectivement, il faudrait un débat démocratique pour dire quelle priorité on met sur la table, et notamment en termes de façon de gérer la transition et en termes de consommation et d'importance. Voilà. Bon, on va reprendre la pyramide de Maslow
et
puis reprendre la base. L'argent, on le trouvera, mais je reste persuadée...
Déjà, disons aux Français, combien ça va leur coûter? Combien ça va leur coûter?
Je reste persuadée que si on ne calcule pas, si on ne change pas les mesures, effectivement, avec les mesures actuelles qui nous ont menés là où nous sommes, avec les mesures financières actuelles qui nous ont menés là où nous sommes, si on continue à mesurer de la même façon, c'est un petit peu comme les stress tests qui ont créé la crise financière de 2008, on ne résout pas avec les mêmes mesures qui ont créé le problème.
Les dates fixées sont hors sol. Non, mais il va falloir les changer.
C'est pas un détail. Parce le que sujet est beaucoup plus global.
Derrière, il y a des investissements énormes à mettre en place, notamment
oui,
pour les entreprises.
Oui, il faut les mesurer
c'est
bien.
C'est 43 milliards d'euros par an, Rex et École l'a chiffré.
Mais 43 milliards par an.
Mais si on les mesure,
de quoi ça correspond à quoi ce chiffre, Agnès Levardier?
C'est le chiffre de Rex et École qui montre que, en imputant tous les investissements qui sont liés aux obligations, aux nouvelles obligations, on est à 43 milliards d'investissements pour finalement les investissements environnementaux, 43 milliards pour les entreprises et 37 milliards pour les ménages par an.
Par an.
Hein,
en raison des objectifs
de baisse de 40%, etc.
Mais on sait que ça a un prix. On sait bien que c'est inflationniste.
Non, mais attendez. La réalité, c'est que chaque fois qu'on vote ce genre de mesure, il faut une évaluation à côté. Il faut du concret. Il faut dire comment ça va impacter la vie des entreprises, des ménages français, combien ça va nous coûter en taxes, combien ça va nous coûter en investissement, qui va payer. Il n'y a jamais une information là-dessus.
Le fait de compter que 60% de la biodiversité qui disparaît, ça a quel coût? On ne le compte pas, donc on ne peut pas rester sur ces mesures-là.
Mais Jérôme a raison, c'est payé avec des euros qui ne tombent pas du ciel.
Mais ces euros, c'est un outil, il faut qu'ils représentent quelque chose de concret quand même.
Je crois que ce qui rend le débat difficile pour les citoyens français, en tout cas c'est mon cas, je ne sais pas si des gens se reconnaîtront là-dedans, vous savez, j'ai toujours un angle un peu microéconomique, hein, chaque fois qu'on voit midi à sa porte, c'est qu'on a l'impression que les décisions sont prises avec une forme de dogmatisme qui ne prend pas en compte l'intégralité des données. Je m'explique. Quand on vous fait abandonner votre diesel qui aurait pu tenir 10 ans de plus, qui avait été produit, qui est déjà largement amorti, etc., peut-être qu'il consomme 8 litres de gazole et qu'il émet plus qu'une voiture hybride rechargeable. Sauf que il aurait pu tenir 10 ans de plus, et on vous a fait acheter par anticipation, pour le changer, par dogmatisme, une voiture hybride rechargeable qui a une empreinte carbone qui est probablement supérieure pour la consommation que vous en faites, puisqu'elle a eu son empreinte de production son empreinte de consommation. Exemple 1. Exemple 2 sur l'éolien, qui est un truc absolument flagrant. Alors, on peut discuter du nombre de tonnes de cuivre qu'il y a à l'intérieur d'une éolienne, mais il est quand même avéré que chaque fois qu'on met un parc éolien compte tenu de son intermittence, si on n'a pas à côté une source d'énergie pilotable, tout ce qu'on tire comme plan sur la comète, sur ce qu'on va pouvoir construire comme logement, comme zone d'activité, comme tout ce que vous voulez alimenter par ce parc éolien, on est obligé de foutre une centrale à charbon à côté, et que donc l'empreinte globale entre les coûts de production, les coûts de maintenance et ce qu'on a été obligé de faire juste pour que ça rende le service qu'on a envie est probablement supérieure à ce qu'on nous vend dans des calculs qui ne prennent pas toutes les données en compte. En tout cas, c'est l'impression qu'on a, et donc ça mérite, et là je suis tout à fait d'accord avec vous madame, ça mérite absolument qu'on soit capable d'objectiver ces données-là proprement et qu'on les pose au débat démocratique pour que les gens décident en leur âme et conscience. Est-ce que j'accepte qu'au lieu d'interdire les diesels dans Paris, est-ce qu'on accepte de prolonger ma voiture diesel de 10 ans pour éviter que j'en achète une autre avec l'empreinte carbone de production en plus de ce qu'elle va consommer?
Mais la réalité,
on peut pas faire tous les trajets à vélo.
La réalité entrechoque en fait. À un moment, les visions technocratiques. Les ZFE, par exemple, les zones à faible émission.
Oui.
Bon, on voit bien que ça ne va pas fonctionner. Voilà. Et qu'on va devoir repousser sur les vignettes, critères, machin, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment où il y a la vraie vie qui se rencontre avec ce qui a été voté sur des textes qui finalement sont pas complètement ancrés dans la réalité.
La
réalité aussi, c'est qu'une voiture électrique, c'est hyper cher pour un ménage français moyen aujourd'hui. Et que les constructeurs automobiles ont bien expliqué qu'ils n'arriveraient pas pour l'instant à produire un véhicule électrique au même prix qu'un véhicule thermique.
Mais pourquoi est-ce qu'on continue à penser seule solution, c'est que chacun ait sa voiture? Je veux dire, c'est ça aussi, moi, qui me consterne. Excusez-moi, mais on reste à niveau constant, je suis désolée, on percute directement. C'est pas une question d'idéologie, c'est une question scientifique. On percute la problématique.
Agnès Michel, terminé. On a une minute dix.
Moi, je vis dans une ville de 3400 habitants et je me déplace en train. Voilà. Donc
vous avez les réseaux.
Oui, j'ai vu pour. Non, il y a un TER et je vous assure qu'il marche pas très bien. Par rapport à des
investissements. Bon, mais laissez-la finir. L'émission est terminée.
C'est hyper dogmatique comme vision des choses. Non, le problème, c'est que il faut qu'on sorte, effectivement, si on parle de déplacement en se concentrant sur la voiture individuelle qui, en dehors des problématiques environnementales, pose plein de problèmes. Les embouteillages, je veux dire, c'est parce qu'il y a trop de voitures. Donc, si on ne réfléchit toujours avec des dogmes sur la voiture, c'est la liberté. Non, le problème, c'est comment on se déplace. Donc, c'est ça que pose le GIEC. C'est ça que posent les scientifiques. C'est les usages dont vous parliez tout à l'heure. Et il faut réfléchir sur ces usages et le meilleur bilan de chaque individu.
Non, mais il faut reconnaître que la France est déjà hyper, finalement...
Mais non
décarbonée,
mais non,
plus décarbonée
mais
que la plupart des autres pays parce qu'elle est désindustrialisée.
Mais non, mais ça c'est pas.
On a fini malheureusement. Si vous avez un mot de la fin,
j'ai un mot. J'adore ce que vous venez de dire puisque il y a un paramètre qu'il faut absolument prendre en compte dans ce qu'on propose aux citoyens. C'est le paramètre des libertés publiques. Et donc, on doit trouver le meilleur chemin de décarbonation dans la maximisation du respect des libertés publiques. Et ça, c'est pas du tout l'angle punitif qu'on nous présente.
Et
donc, c'est celui qui le rend inacceptable.
Dans le respect de l'information qu'on doit donner aux Français.
Moi, j'en conclue de tout ce qu'on s'est dit, que ce soit la dépense publique ou alors, effectivement, les enjeux climatiques. Il faut bosser les sujets.
Un peu plus. Et il faut changer les mesures.
Ouais.
Et il faut arrêter.
Mais le GIEC, il est très clair.
De voir les choses de manière hyper techno.
Transport, agriculture, urbanisation, ce sont les trois cibles et surtout arrêter la déforestation. Voilà ce que j'ai retenu notamment.
Et l'artificialisation. Le zéro artificialisation des sols, ça aussi, ça va être un problème pour industrialiser la France.
Non, il y a plein de friches.
Bon, merci Agnès Michel, Agnès Verdier-Molinier et Jérôme Dédéant.
Ça va être compliqué pour reconstruire une
Issue. On va se retrouver demain à 9h.